Bonjour et bienvenue dans le quart d'heure du chercheur, le podcast scientifique de Télécom Paris, la première grande école d'ingénieurs du numérique. Après nous être penchés sur les enjeux pour accéder à la data en imagerie médicale et sur les avancées et réflexions en cours sur les questions d'open data, je vous propose dans cet épisode de nous intéresser aux recherches en la matière, toujours en compagnie d'Elsa Angelini et de Pietro Gori, enseignant-chercheur à Télécom Paris. Pietro, je te propose de commencer. Peux-tu nous expliquer sur quoi porte ta recherche ?
Ces dernières années, donc, en partenariat surtout avec Neurospin, qui est au COA, nous avons essayé de répondre à une question annexe similaire, qui est la suivante. Nous avons peu de données, peu d'annotations. En revanche, nous pouvons avoir beaucoup de données de sujets sains. Ce qui est ça, heureusement, il y a beaucoup de personnes, donc passent par exemple un scanner, un IRM, et ils sont sains, ils n'ont pas une maladie. Et donc, toutes ces images, en fait, on en a beaucoup. Et donc, la question que nous nous sommes posées, c'est comment pouvons-nous utiliser ce grand, finalement, base de données? Et quand je parle de grand, avec Neurospin, nous avons collecté jusqu'à 10 000 sujets sains. Comment pouvons-nous exploiter, finalement, ces sujets sains pour mieux détecter une certaine maladie et ou mieux détecter, par exemple, de tumeurs où on a des bases de données beaucoup plus petites? Donc, par exemple, les sujets sains, on a récolté 10 000 sujets. Et pour donner un ordre de grandeur, quand on parle de maladies, souvent, c'est de l'ordre entre quelques centaines ou quelques milliers, mais pas plus que 1 ou 2 000 sujets. Donc, c'est vraiment de petites bases de données.
D'accord, je comprends l'idée, un peu comme si on prenait le négatif d'une image. Mais alors, comment ça fonctionne ?
Pour ce projet spécifique, nous sommes partis donc de cette idée de est-ce qu'on ne peut pas construire une sorte de représentation abstraite informatique de sujets sains. Donc là, dans ce projet, nous avons travaillé avec des images de cerveau, donc c'est des IRM du cerveau. Et donc, nous avons récolté une grande base d'IRM du cerveau de sujets sains. Et nous avons réussi à construire, en fait, on peut l'imaginer comme une sorte de représentation du cerveau sain de l'être humain avec aussi sa variabilité. Donc, quelle est finalement une représentation informatique abstraite du cerveau sain? Et une fois qu'on a construit cette représentation, nous avons utilisé, comme on les a dit tout à l'heure, toutes les métadonnées à disposition, l'âge, le sexe, etc., pour pouvoir enrichir finalement cette représentation. Et après, la question a été, est-ce qu'on peut la transférer? Donc, ça fait partie du domaine qui s'appelle transfer learning. Est-ce qu'on peut la transférer vers des petites bases pour mieux détecter une maladie? Dans notre cas, c'était les maladies psychiatriques, donc l'autisme, la schizophrénie et la maladie bipolaire. Et l'idée, c'était la suivante, et assez simple, c'est de dire, on a deux sujets sains qui ont, par exemple, un âge, ces deux sujets jeunes, donc ils ont un âge similaire. Et on a aussi des sujets très âgés. On sait qu'ils devraient se ressembler d'un point de vue clinique. Et on arrive à le modéliser mathématiquement d'un point de vue géométrique dans cet espace de représentation informatique abstrait, où on sait que vu qu'ils doivent se ressembler d'un point de vue clinique, ils seront proches d'un point de vue mathématique ou géométrique. Et vice versa, un sujet jeune, un sujet âgé, qui cliniquement ne se ressemble pas, il devrait être loin dans cet espace. Donc en exploitant cette idée, mathématiquement, informatiquement, on a réussi à créer cet espace de représentation et l'exploiter in fine aussi pour mieux comprendre quelle est l'anatomie du cerveau de sujet sain. Et donc, en exploitant cette idée, on a réussi à mieux aussi détecter les maladies psychiatriques, en particulier l'autisme, la schizophrénie et les troubles bipolaires.
Donc là, ça fonctionne. Et du coup, quelles sont les applications que vous envisagez ou avez déjà lancées ?
On a réussi donc effectivement à l'exploiter. Et quand je dis qu'on a réussi à l'exploiter, évidemment, l'autre stratégie qui était jusque-là utilisée, c'était plutôt de se dire, on prend des sujets sains, des sujets malades, et à partir de zéro, en anglais c'est from scratch, on essaie de développer un algorithme d'IA qui va tout simplement, qui va distinguer les sujets malades des sujets pas malades. Et donc ça, c'est vraiment une autre philosophie, une autre façon de travailler. C'est vraiment de construire cette représentation et de l'appliquer finalement. Et on a montré dans plusieurs travaux scientifiques que cette approche, en fait, marche mieux. On arrive donc à mieux détecter les maladies. Donc ça veut dire que quelqu'un, un sujet passe, par exemple, un IRM. Et la question, c'est de savoir est-ce qu'il a ou pas une certaine maladie, mais surtout de comprendre où sont les biomarqueurs anatomiques qui nous disent si cette personne a une maladie ou pas. C'est-à-dire, quelle est la partie du cerveau, finalement, on pourrait dire, anormale par rapport au sujet sain. Et donc, grâce à cette méthode IA que nous avons développée en collaboration avec Neurospin SEA, nous avons réussi à mieux identifier les parties du cerveau différentes par rapport au sujet sain, et donc qui on pourrait dénommer comme des biomarqueurs de ces maladies.
Et comment cela va être exploité? Qu'allez-vous faire maintenant? Est-ce que ça donne des indications pour faire de la prévention ou d'autres exploitations?
Effectivement, une fois en utilisant donc ces méthodes, on arrive donc à mieux effectivement comprendre la maladie, donc à trouver ces biomarqueurs, à avoir un algorithme d'IA qui se concentre, disons, je dirais, sur les bonnes parties du cerveau pour comprendre si quelqu'un est malade ou pas, qui est ça finalement la question. Et donc effectivement, l'idée d'après, c'est d'exploiter toutes ces méthodes d'IA pour, un, mieux comprendre la maladie, deux, trouver des nouveaux biomarqueurs. Donc, quand on parle de biomarqueurs, ça veut dire comprendre quelles sont finalement des parties du cerveau qu'à l'œil humain, à l'œil nu, on n'arrive pas forcément à comprendre qu'il y a des différences par rapport au sujet simple, parce que les différences sont très subtiles. Et donc, un algorithme d'IA peut, l'hypothèse, c'est qu'un algorithme d'IA peut apprendre ces subtilités, ces petites différences, et les exploiter pour mieux détecter si quelqu'un est malade ou pas. Donc, pour l'instant, l'idée, c'est vraiment de la détection, et donc comprendre si quelqu'un a une maladie. Le projet d'après, ce sera utiliser, exploiter des données longitudinales pour pouvoir essayer de comprendre si quelqu'un aura la maladie d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est quelque chose qu'on essaie déjà de faire, par exemple, la maladie d'Alzheimer. Le vrai problème de développer ce type de méthode, c'est encore une fois les données. L'idée, ce serait d'avoir des données qui ont suivi quelqu'un pendant toute sa vie et qu'in fine, cette personne est devenue malade ou pas. Et donc, arriver à comprendre quand et pourquoi cette personne est malade. Donc, avoir ce type de données, ce serait effectivement extrêmement important. Mais aujourd'hui, ces données sont rares. On l'a pour la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie neurodéveloppementale, mais on a encore peu de données, finalement.
Oui, et il y a aussi tous les facteurs externes, la façon de se nourrir, la pratique sportive, la pollution, qui contribuent à la pathologisation. C'est ce que tu disais, Elsa, dans un épisode précédent, sur le fait d'avoir des très grandes cohortes qui permettent d'avoir un focus très large sur les facteurs externes.
C'est essentiel. Et sur le sujet de l'imagerie cérébrale et des pathologies de type Alzheimer, là encore, les États-Unis sont beaucoup plus en avance et ont vraiment monté des grosses cohortes qui sont partagées et accessibles par des groupes comme nous et où les sujets ont été suivis sur plusieurs années. Mais la complexité, là, c'est qu'effectivement, le temps d'évolution et le temps où on voudrait faire le pré-diagnostic vraiment très tôt est beaucoup plus long que dans d'autres maladies. Le challenge est énorme. On en est vraiment au tout début d'essayer d'intégrer, encore une fois, ce qu'on appelle les données de style de vie et d'exposome, enfin tout ce qui est exposition, pollution, et de les interopérabiliser avec les données qui sortent des hôpitaux et qui, enfin, des examens des patients, quoi. Mais tout le monde est bien conscient que c'est effectivement essentiel dans la personnalisation du diagnostic et notamment la personnalisation du pronostic.
Et alors du coup, toi Elsa, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail de recherche, d'un exemple utile?
Bon, globalement, pour donner des exemples, actuellement, dans mes travaux de recherche, ils couvrent par exemple typiquement trois domaines assez différents. Il y en a un qui est tout ce qui est exploitation des scanners pulmonaires pour aller caractériser une pathologie qui s'appelle l'emphysème, et ensuite là pousser au-delà de ça à essayer de caractériser mieux des pathologies très localisées sur l'arbre des bronches pulmonaires. Un deuxième exemple de projet, c'est on travaille avec une entreprise qui fabrique des machines d'imagerie par bioluminescence, et on travaille avec eux depuis là 2 ans à essayer de mieux quantifier les images qui sortent de leurs machines, de telle sorte que, par exemple, les biologistes qui vont s'en servir pourront faire des mesures qui sont vraiment beaucoup plus comparables à 2 jours d'intervalle quand elles mettent la même souris sur laquelle on est en train de tester un traitement contre le cancer, par exemple. Parce que pour l'instant, il y a beaucoup de variabilité en fait, intrinsèque aux images qui font que les mesures pourraient être sûrement beaucoup plus fiables et standardisées. Donc ça, c'est le genre de choses où on essaye, avec nos algorithmes, d'éliminer la partie variable et de ne vraiment extraire que la partie qui devrait servir à la quantification de la taille de la tumeur, par exemple. Et puis un troisième exemple, c'est plus en IA, qui est, au lieu d'aller s'attaquer à des problèmes de segmentation, là, on a, depuis 2 ans avec un étudiant, on s'est attaqué à des problématiques de correction d'annotation, ou correction de segmentation et de ou de même de d'annotation elle-même qui soit intelligent et qui permette pareil à l'expert sur des images d'histopathologie qui sont immenses d'aller très très vite. Et une fois par exemple si un trait a été fait à un endroit, que l'algorithme sache aller proposer à plein d'autres endroits dans l'image que le même trait soit fait ou que le même type d'annotation soit faite, etc. Voilà, rendre l'algorithme intelligent et réactif à tout ce qui peut être rentré par un expert.
Donc ça, ce sont trois exemples. Et est-ce que tu peux nous parler de ta collaboration avec Columbia University sur la qualification de l'emphysème ?
C'est une histoire assez intéressante, parce qu'en fait, c'est un médecin qui est venu nous chercher dans le laboratoire qui est assez similaire à ici, qui est dans la faculté d'ingénierie, avec une problématique très ouverte qui était mieux exploiter les scanners pulmonaires pour quantifier l'emphysème et pour le caractériser. En pensant qu'il n'y a pas un type d'emphysème, mais en fait, il y en a plein. Un peu comme le cerveau se modifie, les poumons se modifient et se dégradent. Et de toute façon, donc, il y a de l'emphysème normal et puis il y a de l'emphysème qui peut être dû à l'exposition à la cigarette ou à la pollution ou en fait à des facteurs génétiques, on pense juste de voilà, sensibilité exacerbée. L'avantage, c'est que Columbia, et donc ce médecin, était à la tête d'acquisition de cohortes d'images, de registres, en fait, et qui comportaient des images de cardiaques avec une partie du poumon et des images qui contenaient tout le poumon. Donc, c'est un scénario idéal où les images nous étaient apportées sur un plateau, le problème était ouvert, et donc on a commencé à travailler là-dessus. Et donc, on a d'abord redéfini ce qu'était un emphysème, d'un point de vue algorithmique, pour être beaucoup plus précis et spécifique que ce que font quand ils regardent une image. Et puis ensuite, une fois qu'on s'est mis d'accord sur ce qu'était l'emphysème, qui est de la dégradation des tissus pulmonaires, on s'est attaqué à essayer d'en faire des clusters de différentes signatures visuelles et de textures. De fil en aiguille, là, récemment, on est arrivé à se mettre d'accord sur 6 sous-types d'emphysème, où les médecins sont allés donner des noms. Et donc, on en est maintenant à continuer l'aventure et à essayer de caractériser ce qu'on appelle de façon moléculaire ces sous-types, en se disant que peut-être il y a encore d'autres sous-types. Et c'est là où on va faire appel à des données de marqueurs génétiques. Et puis, on va essayer aussi d'aller les caractériser un dans le temps. Est-ce qu'ils évoluent tous de la même façon, à 10 ans d'écart, par exemple ? Et deuxièmement, d'aller essayer de les caractériser sur d'autres acquisitions de scanners. Parce que là, donc, on travaillait sur des scanners qui sont pris à inflation maximum. Il y a aussi des scanners qui sont pris à expiration maximum et où on voit d'autres choses. Et donc, on voudrait essayer de, voilà, de transporter la caractérisation qu'on a faite à inflation max, à expiration max, et essayer de combiner tout ça pour proposer éventuellement d'autres sous-types beaucoup, encore plus précis d'emphysème avec ce qu'on appelle une significance clinique. Et par exemple, un pouvoir prédictif, encore une fois, de ce que l'évolution a à prévoir dans 5 ans qui soit beaucoup plus précis.
Merci Elsa et Pietro de nous avoir raconté votre travail de chercheur. On espère que ces exemples vous auront aidé à mieux comprendre les enjeux autour des data en imagerie médicale et plus globalement les promesses que porte l'intelligence artificielle dans ces domaines.